Si tu n'as pas d'artisan, si tu n'as personne en place, tu vas perdre du temps à essayer de trouver quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé auparavant. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il va certainement te facturer un montant énorme, simplement parce qu'il sait que bah c'est une urgence. Il t'a jamais vu, il ne te connaît pas, tu n'as jamais fait de business avec lui. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur le podcast Graines d'investisseurs. Je vais commencer parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté. Alors je vais me présenter, je m'appelle Anthony, j'ai 30 ans, je suis investisseur immobilier depuis maintenant plusieurs années. Je fais aussi un petit peu de bourse, un petit peu de crypto. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je dégage plus de 2000 euros de revenus passifs avec mon immobilier. J'ai 5 chiffres investis en bourse et en crypto et tout ça en ayant commencé au McDonald's avec un salaire de 800 euros. J'ai créé ce podcast durant le confinement du Covid pour partager un petit peu de mon aventure dans l'immobilier et tout ce que j'entreprends, mes succès mais aussi mes échecs. Et je dirais que le maître mot de ce podcast, ça serait réalité. Chaque semaine, je vous donne de l'inspiration, de la motivation et des histoires que vous devez entendre pour démarrer votre parcours d'investissement. Je veux vous montrer qu'à travers l'investissement, on peut faire de très belles choses. Mais il y a aussi malheureusement quelques petits passages à vide. Et donc à travers tous les épisodes que j'ai déjà faits, je vous ai jamais caché la réalité. Après cette brève présentation, j'aimerais à tous vous souhaiter une très belle et une très grande année 2023. J'espère que cette année sera meilleure que 2022, que vous ferez le nécessaire, j'espère, pour atteindre vos objectifs. L'argent, c'est bien, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. Je vous souhaite à tous de très belles choses pour cette année 2023. Et sinon, les amis, comment se sont passées les fêtes de fin d'année pour vous? Est-ce que le Père Noël a été généreux? Pour mon cas, franchement, ça va. J'ai été gâté. J'ai reçu une édition de 1949, s'il vous plaît, du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, pardon. Mais j'espère que le Père Noël m'a aussi apporté pour cette année un nombre incalculable de notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, pour rendre ce cadeau réel, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, noter 5 étoiles le podcast, rajouter votre petit commentaire qui boostera mon podcast. Hein. Ça fait beaucoup de podcasts, mais c'est comme ça. C'est ce qui permet de démocratiser mon contenu. Alors, je compte sur votre soutien, mais tout le monde n'a pas Apple Podcast. Alors, sachez que vous pouvez vous aussi partager mon podcast sur vos réseaux. C'est gratuit. Ça me booste, moi personnellement, et puis ça fait connaître encore plus le podcast. Alors les amis, avant de commencer, je vais saluer un auditeur, à savoir Kylian, hein, il va se reconnaître, qui m'a envoyé un DM sur Instagram pendant les fêtes, et qui m'a dit, bon, je vous mets juste une petite partie du message, hein, mais tu vois, c'est ce genre de message qui me donne la pêche. Donc j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un podcast immobilier qui met tellement de questions en perspective. C'est un investissement qui me passionne depuis longtemps, mais j'ai jamais réussi à passer à l'action. Et ce podcast me donne l'impression que moi aussi, je peux faire ce voyage. Franchement, j'adore. J'adore. Alors les amis, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? J'ai pas mal de sujets à aborder avec vous pour préparer cette nouvelle année. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, on va commencer par le fait de construire un vrai business. Parce que oui, l'investissement immobilier, il peut être souvent perçu un peu comme un passe-temps ou une activité secondaire pour la plupart des gens. Mais moi, je pense qu'il est important de le gérer comme un véritable business. Donc, même si c'est juste votre premier bien locatif, on doit considérer ça comme un business. C'est un investissement, ça peut ne pas sembler être vraiment un business à proprement parler, mais vous pouvez par exemple investir en nom propre sans ouvrir de société. Et dans ce cas-là, effectivement, ça ne ressemble pas vraiment à un business. Parce que c'est sur vos comptes bancaires, etc., etc. Ça se mélange à vos factures d'EDF, tu vois le truc. Mais moi, je vais vous parler des raisons pour lesquelles vous devriez toujours exploiter vos investissements, votre immobilier, vos immeubles, votre studio, votre achat-revente ou toute autre stratégie comme un véritable business. Et je pense qu'il est important pour les auditeurs, surtout pour les nouveaux, d'entendre ça, parce que c'est pour moi le meilleur moment pour commencer à traiter votre investissement comme un business, c'est au début, quand tu commences. Il est tellement plus simple de mettre en chose de mettre en place des choses quand tu as un ou deux biens immobiliers, par exemple, plutôt que quand tu en as 30. Il y a des choix que j'ai fait, par exemple, moi, personnellement, quand j'ai fait, il y a des choix que j'ai fait au début et que je regrette aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire que ça m'a retardé, etc. Mais maintenant, si je veux redresser là-bas, ça va me coûter un peu plus d'argent, alors que c'était des choses que j'aurais pu concrètement mettre en place dès le début. Il y a certaines choses qui vont fonctionner quand tu as 1, 2, 3 lots, mais qui ne vont plus fonctionner quand tu commences à en avoir 15, par exemple. Ou pire, quand tu commences à mixer les stratégies d'investissement. Si tu veux faire de la longue durée avec de la courte durée, peut-être que tu vas faire de la coloc. Voilà, il y a des choses à prendre en compte. La dernière fois, en fait, j'ai rencontré un investisseur qui disait que cette année, son objectif, c'était pas d'acheter plus de biens. Lui, il voulait juste stabiliser un peu son portefeuille. En fait, ces dernières années, il a tellement grandi, il a tellement investi, il a acheté tellement de biens qu'il s'est dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de maximiser davantage mes flux qui rentrent actuellement, parce que je sais que je peux rendre ça peut-être plus efficace et peut-être gagner un peu plus d'argent avec, tu vois. Et en fait, il a fait le constat qu'il était partout et nulle part. Au lieu de déplacer constamment son argent, de faire des rénovations, de payer les frais de notaire, de payer les dépenses diverses inhérentes à l'investissement immobilier, eh ben, il va se poser pour comprendre comment gérer ses systèmes et processus, parce qu'en fait, lorsque tu as des choses en place, ça te permet d'économiser de l'argent. La personne qui me dit ouais, ne pas avoir de process, ça sert à rien, etc., etc., ça, c'est du bullshit. 100% des cas, avoir un process clair et déterminé, ça te fait gagner de l'argent sur une longue période. Par exemple, tu vois, si tu reçois un appel pour te dire que tu dois, on va prendre quoi comme exemple ? Un toilette, voilà. Tu dois réparer un toilette ou quoi que ce soit en fait. Si tu n'as pas d'artisan, si tu n'as personne en place ou quelqu'un à qui t'adresser, tu vas perdre du temps à essayer de trouver quelqu'un, à essayer de trouver quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé auparavant. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il va certainement te facturer un montant énorme, simplement parce qu'il sait que bah, c'est une urgence. Il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas, tu n'as jamais fait de business avec lui. Tu ne l'as jamais appelé pour faire de la rénovation en compagnie. Tu crois qu'il va faire quoi ? Bien sûr qu'il va te charger, il va te faire une facture salée. En fait, ce sont juste des choses simples comme ça qui peuvent vous faire économiser de l'argent. Et en fait, vous ne le réalisez même pas. Ou simplement juste de prendre le temps de par exemple, réévaluer chaque année votre assurance. Est-ce que c'est toujours la couverture dont j'ai besoin ? Je dois chercher à mettre autre chose en place, etc., etc. Alors ouais, moi je pense que la chose la plus importante, c'est de traiter votre investissement immobilier comme un business et non comme un passe-temps. Et en fait, il y a tant de personnes qui se lancent dans l'immobilier, et en particulier les débutants. Après, je vais pas leur jeter la pierre, tu vois, mais les débutants, ils sont tellement concentrés, et à juste titre aussi, hein, sur l'analyse des biens, à chercher le financement, à chercher du 110% partout, etc. Ah, s'il n'y a pas du 110%, j'investis pas, nanana, nanana. Les gens, les débutants sont tellement concentrés sur ça, c'est leur pierre angulaire, tu vois. Mais quels sont les systèmes que nous devons mettre en place pour qu'on passe d'un investissement immobilier basique, entre guillemets, à un réel business, à un rouage de quelque chose de plus grand? Parce qu'en fin de compte, investisseurs immobiliers, en somme, on est des entrepreneurs. On est des entrepreneurs de l'immobilier. Quand tu commences à investir, voilà, tu es un entrepreneur. Tu fais quelque chose. Tu l'as fait de ton bon vouloir. Il n'y a personne qui t'a obligé. Donc, c'est entreprendre. C'est faire quelque chose. Mais je pense que avant même de se concentrer trop sur la construction de son business, etc., etc., vous devez aussi vous regarder. En tant que nouvel investisseur, en fait, il est fort probable que comme moi, au début, tu es tout seul. t'es tout seul. Donc il y a une chose que je vous recommande de faire, et fortement même, c'est de traquer votre temps. Pour 2023, traquez votre temps. Et en disant ça, je cherche à m'orienter vers les personnes qui n'ont pas encore investi à cause d'excuses. J'ai un peu de mal à dire cette phrase, désolé. Mais traquez votre temps pour les personnes qui n'ont pas encore investi, parce que moi j'aimerais, au début quand tu commences, t'es tout seul. Et l'une des raisons pour laquelle les débutants peuvent se dire « Ah non, c'est pas pour moi, etc. » c'est parce que vous pensez ne pas avoir le temps. Et j'aimerais vraiment, pour 2023, vous mettre au défi de faire un suivi de votre temps. Allez, même pas sur une année entière, sur une semaine ou deux. Suivez tout ce que vous faites. « Ok, bah aujourd'hui, je me suis réveillé à telle heure, je vais au taf, le petit déjeuner, le déjeuner, je rentre du boulot. » Petit Netflix, hop, allez, je me mets sur Insta, allez, je regarde une vidéo sur YouTube, etc., etc. Donc, faire ce tracking du temps peut vous aider à comprendre où va votre temps perdu et où vous pouvez trouver du temps pour chercher, pour développer cette envie d'investir dans l'immobilier. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre bien locatif, vous pouvez aller plus loin et voir quels sont ce qui vous gaspille du temps. Quelles sont les choses que je fais qui m'aident réellement à aller de l'avant? Par exemple, je vais prendre un exemple grossier, mais qui va parler à tout le monde. Le nettoyage de la maison ou le repassage. Tu vois, le repassage, c'est plus parlant. Le repassage, c'est un truc qui est... C'est chiant. Ça te prend du temps, c'est long, il faut que ce soit propre. Ça te bouffe ton temps. Et donc, si tu ne trouves pas le temps d'analyser des potentiels biens locatifs... ou des potentiels flips, etc., eh ben, tu peux peut-être externaliser cela en passant par des projets clés en main avec des rendements moindres. Mais si tu intègres le repassage dans ton business, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans cet épisode ou sur un autre, on va parler de l'externalisation. Mais quelles sont les choses que vous pouvez externaliser où vous avez une meilleure chance de faire quelque chose qui vous apportera un rendement plus important? Le repassage, peut-être que tu peux déléguer cette tâche. Laisse le repassage à quelqu'un d'autre. Ou paye quelqu'un. Ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent que tu vas, pour partie, récupérer en fin d'année sur tes impôts. Donc peut-être que déléguer cette tâche du repassage qui va te prendre... Moi, tu vois, franchement, je vais pas te mentir. C'est vrai que le repassage, moi, j'en ai pour 2 heures au moins toutes les semaines. Au moins 2 heures. À chaque fois, j'ai le temps de regarder un film entier. Et du coup, petit aparté, mais je me suis rendu compte maintenant que les films, ils durent 3 heures. C'est un truc de fou. Avant, c'était 1h30, hein, la taille d'un film, la durée d'un film. Maintenant, c'est 3 heures. Regardez, les amis. Allez sur Netflix, allez regarder la durée des films moyennes. C'est énorme. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, grâce au repassage, que les films duraient plus longtemps. Et donc, mon repassage... il durait quand même pas mal de temps. Et donc, voilà, externaliser cette tâche, déléguer-la. Payer quelqu'un pour le faire, que ce soit au black ou que ce soit déclaré, hein, peu importe, c'est pas la question. Je vous conseille quand même de le déclarer parce que vous pouvez récupérer des impôts sur votre déclaration de fin d'année. Bon, bref, on a vu le premier point. On va passer maintenant au prochain point qui est d'ordre financier. Vos finances, les amis, sont essentiellement la santé globale de vous et de votre business. Pour faire simple, où va l'argent? Where is the money? On va parler budgétisation en tant qu'investisseur locatif. Moi, je pense que j'ai insisté suffisamment sur tous les précédents épisodes, tout le temps, sur le fait d'avoir une réserve de trésorerie. Et de savoir quelles sont vos dépenses mensuelles pour que si jamais vous ayez une vacance locative ou un souci, eh ben que vous puissiez prendre dans vos réserves pour rembourser votre emprunt, par exemple, ou payer cette chaudière, par exemple. Donc, ainsi, le fait d'avoir une réserve de trésorerie, à mesure que votre portefeuille immobilier va se développer, ça va devenir effectivement bien plus complexe parce que plus de biens dit plus de dépenses. Mais en ce qui concerne vos dépenses mensuelles fixes, vous devriez savoir c'est quoi le chiffre. Vous regardez vos dépenses, vous regardez vos gains, et chaque mois, vous savez quelles sont ces dépenses fixes. Ensuite, vous avez les dépenses variables. Et c'est là que vous devriez garder un œil sur combien vous dépensez réellement. Et surtout, ne pas minimiser ces dépenses. Peut-être qu'il va y avoir une rénovation à faire ou une grosse réparation. Peut-être qu'il y a quelque chose que on ne s'attendait pas et puis ça nous tombe sur le bout du nez. Et donc, pour éviter l'embarras, parce que imaginons, si tu n'as pas l'oseille, si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Et donc, pour éviter tout ça, vous devez planifier à l'avance certaines de ces grosses dépenses. Et moi, je pense qu'il est super important, parce que je le sais, il y a beaucoup de personnes qui oublient ces dépenses. Surtout, tu vois, toutes ces dépenses en dehors de l'exploitation normale. Tu vois, on en a déjà parlé dans un épisode, mais si par exemple tu achètes un bien qui a 30 ans, allez, 30 ans, et que le toit n'a jamais été remplacé, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, ok, bah, peut-être que je vais devoir commencer à mettre de l'argent de côté parce que si le toit n'a pas été remplacé depuis 30 ans, c'est qu'il va pas tarder à arriver. Tu vois, dans un logement, tout a un certain niveau de vie utile. Votre chauffe-eau, vos appareils, l'électricité, tout a une durée de vie. Et ne pas prévoir ces potentiels updates, ces potentielles mises à jour, eh ben, c'est te mettre une balle dans le pied. Et quand je vous disais qu'il y a des choses, tu vois, ça devient plus complexe quand tu commences à avoir beaucoup de lots. Parce que plus tu as de biens, plus il y a de petites choses qui vont arriver. Donc, garder de l'argent de côté pour toutes ces dépenses qui ne sont pas régulières, mais qui peuvent arriver, c'est important. Et malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de nouveaux investisseurs oublient. Moi, je le vois quand certaines personnes m'envoient des business plans. J'arrête pas de leur dire. Mets la vacance locative. Les mecs, ils font leurs calculs comme si tout allait rouler comme sur des roulettes. Pas de vacances locatives. Les mecs, ils sont full 12 mois sur 12. Il n'y a pas de... Ils prévoient pas aucune réparation. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais pour vous, pour étudier un dossier, vous devez prendre les facteurs les plus défavorables. Et seulement si les facteurs défavorables sont OK, on y va. Let's go. Donc, comment je gère, moi, mes réserves, ma petite trésorerie? Eh bien, simplement, j'ai un compte. Déjà, c'est simple. J'ai un compte pour chaque investissement. Sur chaque compte, j'ai toujours une mensualité d'avance. C'est-à-dire que si jamais j'ai une mensualité à 1000, eh ben, j'ai toujours 1000 euros sur le compte d'avance au cas où j'ai un petit problème et que ça ne me bloque pas, tu vois. C'est que je passe pas en négatif. Jamais, c'est très important. Donc sur chaque compte, j'ai ça à peu près. Donc s'il doit représenter une somme minime, hein, d'accord, c'est vraiment pas des grosses réserves de trésorerie. Et tout le reste, alors j'ai un petit livret A que franchement je dois avoir 5K dessus. Ouais, je dois avoir à peu près 5K. Et tout le reste, tout le surplus, il est investi. Mais alors qu'est-ce que je fais avec tout le surplus? C'est simple, je l'investis mais sur différents supports. Il y a une partie qui va être investie sur une assurance vie, simplement parce que l'assurance vie est débloquable en 3 jours maximum. Donc je dois avoir, sincèrement je pense, à l'heure actuelle, je dois avoir à peu près 25-30K sur l'assurance vie. Et tout le reste, il est investi en bourse sur les ETF, la fameuse stratégie que j'arrête pas de vous tanner avec. La méthode DCA, Dollar Cost Averaging, tous les mois je mets à peu près la même somme sur les ETF que j'ai choisis, etc. Maintenant, parlons un peu de l'intégration de nos finances personnelles sur les finances de votre business. Est-ce que, comme moi, chaque investissement a un compte séparé? Ou alors, est-ce que sur votre compte, tout est mélangé? Parce que si vous avez une société, vous savez très bien que les finances sont toujours séparées de votre compte perso. Mais par contre, lorsque vous achetez un bien en nom propre, vous pouvez mélanger allègrement les fonds de cet investissement dans votre compte personnel sans problème. Mais avant d'avoir investi en société, lorsque j'avais tous mes investissements en nom propre, j'avais déjà eu cette jugeote, tu vois, pour une fois que j'avais fait un truc propre dès le début, j'avais déjà cette jugeote de ne pas mélanger mes revenus locatifs avec mes revenus salariés. En fait, pour chaque loyer, chaque dépense relative à un bien, tout est prélevé sur le bon compte. Juste parce que c'est plus simple, c'est de l'organisation, ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour votre comptabilité et pour votre comptable aussi, du coup. Et au lieu d'avoir, par exemple, à parcourir votre relevé bancaire tous les mois, à souligner que ceci, bah, c'était vos courses, ça c'était effectivement ça c'était un achat pour un logement, ah ça c'était, attends, c'était pour quel logement? Ok, c'était pour le logement X. Non, il est tellement plus facile d'ouvrir un compte qui est spécifiquement pour votre investissement. Ainsi, vous pourrez, si tu pousses la chose à l'extrême, tu peux même avoir une carte, tu ouvres un compte qui a une carte bancaire spécifique à votre nom personnel, mais qui est dédiée à cet investissement. Je n'ai pas une carte pour tous mes investissements, parce que sinon, ça me ferait vraiment beaucoup de cartes, mais c'est faisable. Et donc, ça te permet de, par exemple, dernièrement, je vous ai dit que j'ai équipé un logement pour tester la LCD, et ben, ça permet d'utiliser cette carte. Au lieu d'avoir des débits sur ton compte personnel, et ben, tu as des débits sur le compte de cet investissement. Et tu n'as pas besoin d'aller rechercher pour ta comptable toutes les lignes sur ton compte personnel, etc., etc. C'est beaucoup plus simple. Puis même, juste imaginons, pour vous rembourser des dépenses que vous avez faites en nom propre, c'est tellement plus simple, tellement plus simple. Maintenant, on a parlé de la finance, on va maintenant parler de la comptabilité. Et franchement, si tu ne mets pas en place des process, tu vas te mordre les doigts très, très rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour gérer au mieux en 5 minutes par mois sa comptabilité? Allez, 10 minutes si tu as beaucoup de choses sur un mois. Et moi, je fonctionne avec un Google Drive. Alors, je vais vous donner ma méthode, comment je fonctionne. Sachez que c'est ma méthode. Pour moi, c'est la plus productive. Maintenant, ça reste que ma méthode. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, il fait de la merde, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Alors, moi, personnellement, déjà, je fonctionne par semestre. C'est-à-dire que de janvier à juillet, je dépose mes justificatifs. Je transmets tout à ma comptable en une fois et on fait un call pour voir si tout est OK. Puis, de août à décembre, je retransmets une nouvelle fois les pièces comptables et on refait un call mi-janvier pour clôturer l'activité. Donc, dans mon dossier investissement, on va retrouver deux dossiers, semestre 1, semestre 2. Dans ces dossiers-là, ça va être exactement la même chose. On va faire qu'un dossier. On va par exemple mettre le semestre 2 parce que dernièrement, j'ai clôturé mon activité. Donc, dans chaque dossier, vous allez retrouver un dossier de compta global. Ce dossier de comptabilité globale, qu'est-ce qu'il regroupe? Il va regrouper les dépenses globales liées à mon activité d'investisseur. On va retrouver par exemple mes factures de téléphone, mes factures d'internet, mes payages. On va retrouver aussi un Excel qui va regrouper tous mes déplacements. Il ne faut pas sous-estimer le tracking de vos déplacements parce que c'est un vrai moyen de gagner de l'argent, surtout pour moi qui investis à distance. C'est une vraie mine d'or d'économie. Donc ensuite, j'ai un autre dossier. J'ai un dossier par investissement. Chez moi, je les nomme par rue. Par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle Marie Curie. j'ai un dossier qui s'appelle Jules Campagne, etc., etc., etc. Ensuite, dans chaque dossier, j'ai un sous-dossier. Par exemple, mon investissement Marie Curie regroupe en réalité deux lots. Donc, dans ce dossier, je retrouve le dossier avec le numéro du logement. Par exemple, dossier numéro 13, d'accord? Et dans ce dossier, vous allez retrouver toutes les dépenses spécifiques à ce bien. Par exemple, cette année, j'ai fait beaucoup de travaux dans ce logement. J'ai acheté des meubles, j'ai eu des frais pour ouvrir les compteurs, pour ouvrir la fibre, etc., etc. Mais on va retrouver aussi les assurances spécifiques, par exemple la PNO, etc. Et donc, je fais ça pour chaque investissement. Et le truc pour ne pas être submergé, c'est d'être organisé. Si vous êtes organisé, tout va bien se passer. Dès que tu reçois une facture, boum, tu la scannes, tu l'intègres au dossier. Et surtout, la plupart, on a tous les derniers smartphones. Tu vois, moi, dans l'application Notes, si jamais, peut-être que vous ne le savez pas, mais quand j'ai une facture, je vais dans l'application Notes, je fais créer une note, je vais sur appareil photo, je fais scanner document, je scanne, j'envoie sur... Il est sur le cloud, je l'ai directement à disposition. Ça te prend littéralement 2 minutes. Donc, si tu es organisé, dès que tu reçois ta facture, tu le fais cash, direct, tu ne vas rien oublier. Alors que si tu faisais comme je faisais au début, c'est-à-dire que tu attends la fin d'année pour mettre tout en ordre ta comptabilité, tu vas oublier énormément de choses. Et c'est dommage. C'est dommage de se passer d'amortissement, c'est dommage de se passer de déficit. Et à cause de ça, sur des logements meublés, j'ai perdu des factures impossibles de retrouver. Eh ben, j'ai un ou deux logements où j'arrive pas à avoir de déficit, à avoir d'amortissement sur mes meubles. Parce que j'ai perdu des factures et je sais plus où je les ai foutues, je sais pas comment faire pour les retrouver, etc., etc., etc. Et c'est dommage, tu vois. C'est dommage parce que des meubles, ça coûte quand même une certaine somme et c'est dommage de pas les amortir. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on paye. Il faut toujours être responsable dans la vie. Comme je vous l'ai répété, j'ai fait de la merde, j'assume. Écoutez, voilà les amis. Pour ce premier épisode de l'année 2023, on a brossé un peu large, mais ça fait jamais de mal. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la gestion locative, comment je fais pour gérer efficacement tous mes investissements immobiliers en étant à plus de 7 heures de route et sans jamais avoir de problème. Je touche du bois. Ça peut arriver. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à laisser votre note 5 étoiles pour surperformer les stats de l'année dernière. Le petit commentaire qui fait du bien. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!